franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, hommage à l'astrophysicien André Braik, souvenir du 12 novembre 2014 lorsque Philae atterrissait sur la comète Chury.
Certains ont réécrit l'histoire. À chaque fois qu'un événement se produisait, ou bien une catastrophe, ou bien la naissance du fils d'un empereur, on l'associe à un passage de comète. Et certains disaient que c'est un mauvais présage, d'autres un bon présage. Et c'est l'époque, disons, un petit peu obscurantiste. On ne savait pas ce que c'était. Et tout de même, il y a environ 2000 ans, des gens comme Leucippe, Eurydice, Démocrite avaient compris que c'était un phénomène naturel, que toute cause produisait un effet, et qu'une approche rationnelle du phénomène devait permettre de comprendre. Et il disait, dans les siècles futurs, nous comprendrons de quoi il s'agit. Eh bien, cette prédiction d'il y a 2000 ans est en train aujourd'hui de se réaliser. Oui. C'est pas la peine de faire appel à je ne sais quel loup-garou. Simplement, ces comètes, c'est un petit peu ces cailloux à partir desquels nous sommes nés, et c'est une merveilleuse aventure.
Comment nommer ce contact? Atterrissage ou accométissage, André Braik?
Quand
mots.
On atterrit, on se pose pas sur la planète Terre, on se pose sur le sol. Donc qu'on aille sur la Lune, sur Mars, sur Saturne, enfin sur un satellite de Saturne ou une comète, c'est atterrissage.
Oui, mais on a l'uni aussi, donc on pourrait...
Mais ce n'est pas forcément le bon terme.
Donc on pourrait accométir.
ça ne
vous plaît pas.
Mais c'est moins bien.
Ça ne vous plaît pas.
Je propose qu'on parle français,
bon.
C'est mieux.
André Braik, ce courriel de Kayagas avec une pesanteur 100 000 fois inférieure à celle que nous connaissons sur Terre. Aucun risque que la sonde s'envole vu qu'elle ne pèse plus que quelques grammes.
Oui, mais si par hasard le sol était extrêmement rigide et si nous rebondissions trop fortement, eh bien on atteindrait très facilement la vitesse d'évasion. Donc il faut à la fois y aller avec douceur. C'est pas comme... Vous savez, quand les Américains ont rencontré une comète, ils ont frappé, boum. Les Européens, eux, ils caressent. Donc nous caressons la comète, ce qui, je trouve, est une approche plus sympathique, surtout qu'on approche une dame comme la comète.
Oui.
Eh bien, on la caresse doucement. On ne veut pas s'en éloigner et rebondir. On ne veut pas pénétrer à l'intérieur trop rapidement, sinon on n'aura plus rien. On veut rester dessus et observer ce qui se passe sur chaque milligramme de sa peau.
C'est d'un érotisme, Rosetta. C'est
pas
terrible.
C'est une caresse, c'est pas érotique.
Pas du tout.
C'est juste
si, c'est érotique, une caresse. Nous avons une question dans le public avec. Un auditeur, je crois, qui a le micro.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est Frédéric. C'est juste un petit détail. Je voudrais seulement savoir si la masse de Philae pourrait modifier tant soit peu la trajectoire de la comète.
André Braik.
Extrêmement peu. L'objet est tout petit, il a 4 km de dimension. Nous ignorons pour l'instant sa densité, mais on pense que c'est quelque chose d'assez ténu. C'est probablement pas du granit, évidemment. Et donc sa masse est extrêmement faible. Et de toute manière, la trajectoire qui a été prévue de manière automatique tient compte de la densité estimée, de la masse estimée. Donc il n'y a pas de modification majeure à attendre.
Philippe Henarejos.
Oui, en fait, la densité, on la connaît, c'est 0,4. Donc c'est
oui,
une densité.
Quand je ne la connais pas, il y a une barre d'erreur.
Il y a une barre d'erreur. Mais c'est quelque chose de très poreux. Alors effectivement, il pèse 100 kilos, Philae, pas grand-chose. On serait quand même une grosse surprise s'il cassait un bout de la comète. On ne croit pas que ça
va
arriver.
Quand on passe à côté d'un monsieur qui fait 100 kilos, on n'est pas immédiatement dévié. On peut passer en continuant sa route.
Mardi, la myéline conditionne nos réflexes avec Bernard Zalk.
L'exemple de Fangio, oui, non, Florence?
Oui, mais je vous laisserai en parler parce que vous...
Alors, Bernard
circuit
Zalk,
automobile, c'est moins mon truc.
Fangio.
Fangio, c'était un champion automobile dans les années 50. Et il y a eu, lors d'une course sur un circuit, il y avait un virage en épingle à cheveux. Et il y a eu deux automobiles qui se sont heurtées. Mmh. Et ça, comme c'était juste au décours de ce virage en épingle à cheveux, toutes les autres voitures sont arrivées et ça a été un carambolage absolument gigantesque. Arrive Fangio, qui conduit à 250-300 km/h, et lui seul... est parvenu à éviter ce carambolage. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que, bien sûr, les journalistes lui ont posé la question dès l'arrivée, en disant, mais comment avez-vous fait? Comment se fait-il que tous les autres se sont rentrés dedans, alors que vous avez évité toutes ces voitures? Et il répond, alors ça, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux, parce que ça...
Il n'a pas répondu, déjà... c'est grâce à ma myéline. Hein.
Non, mais... On peut interpréter ça comme c'est grâce à sa myéline. Parce qu'il dit, je suis champion du monde et je vois que les spectateurs ne regardent plus ma voiture, mais regardent en avant. Et donc je me suis dit, il se passe quelque chose en avant. Et ce que je
bon
dis,
réflexe.
Moi, c'est que, effectivement, c'est une sorte de réflexe. C'est-à-dire qu'il a réussi à intégrer à toute vitesse ce message et à ralentir et à éviter ainsi.
Ouais. Mercredi, la jalousie avec le psychiatre Bernard Gébérovitch.
Il y a un ou une rivale imaginaire, fantasmée, qui réel ou pas, il y a toujours un tiers hein, dans la jalousie. Si le rival est imaginé, on demande à l'autre de nous rassurer et rien ne vient rassurer. C'est-à-dire, ce qui est délétère, c'est que du coup, on arrive à une relation qui est la justification de la justification.
À l'épuisement.
Et l'épuisement. Et puis, de toute façon, comme la confiance n'est plus là, rien n'y fait. Et vous parliez du contrôle tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une phrase, moi, que je trouve très importante. C'est que la confiance, c'est pas avoir le contrôle sur l'autre. Et dans les couples que je reçois, assez souvent, les deux notions sont confondues. Et l'un des deux tient absolument à tout contrôler de ce qui se passe pour l'autre. Et là, il n'y a plus de confiance. Il y a une relation qui devient très asymétrique et dévalorisante.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.
Thank you.